j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Félix Mirabel, qui nous vient d'Amérique latine. J'avais envie de dire qu'il nous vient du pays du tango pour vous laisser deviner exactement. En fait, c'est pas vrai. Félix est né en Uruguay, mais a passé aussi beaucoup de temps avec ses collègues en Argentine. Et il est docteur, j'ai appris aussi que tu étais docteur en astronomie et en philosophie, c'est assez rare pour le souligner, d'avoir cette double formation. Ça permet non seulement de faire des choses et de les découvrir, mais aussi de les comprendre, ce qui est bien. Et en tout cas, il est aujourd'hui encore directeur de recherche au CEA à Saclay. Et entre 2004 et 2009, il était représentant de l'ESO, vous savez, c'est l'Observatoire européen de l'hémisphère sud, European Southern Observatory. Il était représentant de l'ESO au Chili et directeur donc du département scientifique de l'ESO au Chili. C'est un endroit très important puisque l'ESO est un lieu où on retrouve tous les astronomes, non seulement d'ailleurs européens, mais aussi d'autres pays. Et on va faire des observations, on effectue les observations dans les observatoires qui sont au nord de Santiago, à La Silla et à Paranal, mais bien sûr, il faut que ces gens ne passent pas toute leur nuit pour observer, ils traitent leurs données, et aussi il y a des échanges scientifiques, et il faut qu'il y ait une vie scientifique nourrie. Et c'est à ce titre que Félix Mirabel était directeur et donc animait cela. Voilà. En dehors, son activité a commencé il y a déjà pas mal de temps. On l'a vu dans d'autres établissements, d'autres universités prestigieuses, dont Manchester, Arecibo, pour ceux qui connaissent ce lieu où on y fait de la radioastronomie, donc cette formation de radioastronome, et à Caltech également. Donc voilà. Et pour citer ses découvertes les plus marquantes, découverte des microquasars, donc ça. Je pense que vous allez en entendre parler ce soir. Découverte des galaxies, co-découvreurs de galaxies infrarouges ultra-lumineuses, pour lesquelles d'ailleurs il a écrit un article complet, un article de revue dans un journal, dans une revue qui s'appelle Revue annuelle d'astronomie astrophysique. Et également les galaxies naines dites de marée, c'est-à-dire lorsque des galaxies se rencontrent, la compression du milieu interstellaire fait naître des galaxies beaucoup plus petites que l'on trouve donc dans la partie en interaction entre ces galaxies. Voilà, donc ce sont vraiment des découvertes majeures qui ont fait la réputation de Félix Mirabel. Et d'ailleurs, il était venu, je crois, il y a une dizaine d'années maintenant, on n'a pas vraiment compté, déjà parler des microquasars ici à l'Institut d'astrophysique. Et il est également lauréat de nombreux prix. Je me garderai bien de les citer tous parce que je préfère que tu parles, hein, c'est mieux. Mais je peux citer quand même le prix de Londres de l'Académie des sciences. Et c'est le prix qu'il a obtenu en France. Voilà. Donc c'est vraiment un immense plaisir pour nous. Et je te laisse nous parler ce soir donc des trous noirs astrophysiques.
Merci. Daniel, pour cette présentation et aussi pour avoir venu avec un jour ensoleillé, écouter sur les trous noirs après le temps qu'il a fait ici à Paris les derniers mois. Alors, je vais parler sur les trous noirs astrophysiques. Et qu'est-ce que sont les trous noirs astrophysiques? Ce sont les trous noirs que nous, on peut repérer. Les astronomes dans le ciel, et en particulier, je vais parler sur la phénoménologie on observe autour des trous noirs qui accrètent de la matière et expulsent de la matière. Et le plan de... C'est-à-dire que moi, je suis un expérimentateur et... comme tel, je ne veux pas parler sur l'état de la matière à l'intérieur du trou noir, parce que comme expérimentateur, jamais je suis y allé, alors autrement je ne serais pas là. Et je vais plutôt faire au début un court résumé historique de l'idée des trous noirs, Les évidences sur l'existence dans l'univers des trous noirs à partir de la phénoménologie qu'on observe dans l'environnement des trous noirs, la découverte des microquasars et l'universalité des lois de la physique font une description de la phénoménologie qui émerge autour des trous noirs. Et pour finir, je vais faire référence à des sujets qui sont d'actualité sur lesquels moi-même je travaille en ce moment, qui c'est le rôle des trous noirs comme régulateur de l'évolution cosmique et l'évolution des galaxies. Alors, l'origine de l'idée des trous noirs, je voulais vous rappeler, ça a été formulé pour première fois par Mitchell vers la fin du XVIIIe siècle, dans le contexte classique de la gravitation et la conception de la lumière comme propagation des particules. Et Mitchell, dans un article de seulement 2 pages, a conclut en calculant la vitesse de libération de la lumière de certains types d'objets qu'il devrait avoir dans l'univers des corps depuis lesquels la lumière ne peut pas sortir. Et Mitchell est allé un peu plus loin. Il a proposé aussi comment on pourrait repérer dans le ciel l'existence de ce type d'objet. Autrement dit, il a proposé qu'on pourrait nous rendre compte qu'il y a un objet qu'aujourd'hui on dessine avec comme trou noir, ce mot n'existait pas, ce concept à l'époque, quand il y a une étoile qui tourne autour d'un point qui n'émet pas de la lumière, mais qu'il doit avoir une masse pour faire tourner l'étoile autour. Ça a été à la fin du XVIIIe siècle, et bien sûr, on est en France, mais avec des raisons très profondes, on doit mentionner le travail de Laplace, qui a fait le même calcul que Mitchell, c'est-à-dire le calcul de la vitesse de libération des objets compacts. Mais Laplace, il est allé dans une des éditions de l'exposition du système du monde. Il a proposé que ce type d'objets obscurs qui ont des masses, mais n'émettent pas de la lumière, pourraient exister en aussi grand nombre que les étoiles. C'est-à-dire qu'il a spéculé que la quantité de ce type d'objets pourrait être énorme. Et en plus, il a proposé que les objets individuels les plus massifs de l'univers pourraient être des objets obscurs, des objets qui ont des masses énormes, mais qui n'émettent pas de la lumière. Et ça était de quelque façon une prédiction spéculative, basée sur les spéculations, de ce qu'aujourd'hui on désigne sous le concept de trou noir supermassif. Ces concepts classiques de ce qu'on appelle aujourd'hui un trou noir est resté par presque 2 siècles, a été abandonné, et les raisons étaient que la conception de la lumière qui a commencé à gagner du terrain, ça a été la conception de la lumière comme propagation d'ondes, des ondes que se propagent dans l'espace. Et dans le contexte de la conception classique de la gravitation, les ondes ne devait pas être affecté par la masse des objets que peuvent rencontrer les ondes. Et ça, c'est, je crois, c'est mon interprétation de pourquoi cette idée a été abandonnée après le travail de Nietzsche et Laplace. Et la raison par laquelle il a émergé de nouveau cette idée de l'existence des objets qui ont des masses, mais qui n'émettent pas, ne peut pas émettre de la lumière, a réémergé dans le contexte de la conception relativiste de la gravitation, que c'est la gravitation, c'est la courbature de l'espace-temps. Et si c'est ça la gravitation, elle doit affecter la propagation de la lumière, soit particules, soit des ondes, parce que les ondes vont suivre les structures de l'espace-temps. Et en réalité, la conception de l'idée d'un trou noir est devenue une conséquence nécessaire de la théorie de la relativité générale, c'est-à-dire de la conception relativiste de la gravitation. Alors, depuis les années, comment est-ce qu'on a commencé, nous, les astrophysiciens, à nous rendre compte que ces objets pourraient vraiment exister dans l'univers? C'est à travers de la découverte des objets qu'on appelle quasars. Ça, c'est un acronyme des mots anglais, quasi-stellar radio object, et la découverte des radiogalaxies par moyen de la radioastronomie. Et il y avait on a commencé à nous rendre compte qu'il existait des sources très compactes d'énergie énorme. Et les cas, et ces sources devaient être très compactes parce que la variabilité est très, très rapide, quelquefois. Ça veut dire que la région depuis laquelle la lumière sortait, et l'énergie sortait, devait être très petite. Et c'est comme ça que, par exemple, ça c'est un exemple d'une radiogalaxie, et tout ce qu'on voit, l'énergie provient d'une région très compacte et peut aller jusqu'à des distances de millions d'années-lumière. Et alors, il devait exister ce type d'objet, mais ça a été une suggestion seulement, ça n'était pas une preuve réellement. Et ce type d'objet, les trous noirs et les phénomènes qui suscitent autour sont des phénomènes qui sont d'intérêt pour la physique de haute énergie, parce que les énergies qui sont produites sont beaucoup, beaucoup plus larges que celles qu'on peut obtenir dans l'accélérateur à Genève, par exemple. Elles sont des laboratoires pour l'étude et la physique des très hautes énergies. Alors, l'autre indication de que ce type d'objet pourrait exister, aussi il a été fourni par les observations avec le télescope Hubble spatial du gaz ionisé, par exemple autour du centre dynamique de la galaxie Messier 87, qui est une galaxie dans la région centrale, très massive, dans la région centrale de la constellation de la Vierge. Et on a vu que la cinématique, c'est-à-dire le mouvement du gaz ionisé, était très rapide et autour d'une région très concentrée. Et aussi, à travers l'étude de cinématique du gaz moléculaire dans cette galaxie, où on a inféré que dans une région très compacte devait exister une masse des 10 millions de masses solaires, dans ce cas, des 100 millions de masses solaires. Alors, mais peut-être l'évidence la plus firme, comme vous devrez peut-être savoir, c'est le trou noir au centre de notre galaxie. Et vous voyez ici le centre dynamique de notre galaxie est indiqué par cette croix. Et ça, c'est une représentation du mouvement des étoiles massives dans la région centrale de la galaxie. Et vous voyez qu'il y a des étoiles qui orbitent autour de ces points qui n'émettent pas de lumière très brillante, ce n'est pas un point brillant. Il y a des objets qui orbitent comme de la même façon que orbite par exemple la comète de Halley autour du Soleil. Et sur cette base, on peut simplement, en utilisant l'équation de Newton, calculer quelle est la masse concentrée dans ce point qui n'émet pas de la lumière. Et on arrive que la masse devrait être d'à peu près 4 millions de masses solaires concentrées dans une région qui a une taille de quelques heures-lumière, c'est-à-dire une taille plus petite que la partie intérieure du système solaire. Et du point de vue de la physique actuelle, c'est difficile de concevoir un autre type d'objet qui ne soit pas un trou noir. Et aussi, récemment, dans les dernières années, on a repéré des variations intermittentes dans l'infrarouge de ces points. La question, et ça c'est un phénomène qu'on étudie beaucoup avec les télescopes de l'ESO et au Chili, on essaye de comprendre d'où est-ce et pourquoi provient cette émission. Il y a différentes hypothèses, mais certainement sont dues à des objets qui orbitent ou qui tombent vers le trou noir central de notre galaxie des 10 millions de masses solaires. Alors, une des questions qu'on se pose et n'est pas encore résolue, c'est comment peut exister dans une région aussi près du trou noir, c'est-à-dire vous voyez ici la taille sont seulement 10 années et lumière, comment il pourrait exister ces étoiles massives sans être complètement déchirées par ces trous noirs, parce que l'action, ce qu'on appelle les actions démarrées dues à la gravitation devaient déchirer ces étoiles, et bon, ils sont là, et c'est une des questions que on se pose maintenant. Il y a différentes hypothèses pour expliquer ça, mais il n'y a pas un consensus général. Alors, une des nouvelles qui est apparue la dernière année, ça a été la découverte d'un nuage du gaz qui commence à s'approcher vers le trou noir, c'est-à-dire que se dirige vers le trou noir, et comme c'est un nuage de gaz, très probablement ce nuage de gaz va être déchiré. Et vous voyez ici, depuis quelques années, comment se déplace ce nuage vers ce trou noir. Il va passer près du trou noir dans l'année 2014, les prochaines années, et une partie du gaz va être accrétée, c'est-à-dire avalée par le trou noir. C'est ça qu'on attend, et tous les observatoires du monde ont leur batterie en attente de la phénoménologie qu'on espère qu'il va se produire. Alors, ça c'est... mais le concept de base d'un trou noir, qu'est-ce que c'est un trou noir? Bon, en général, toutes les étoiles compactes, sauf les trous noirs, comme les naines blanches, les étoiles à neutrons, sont des objets compacts avec des tailles relativement petites, hein, de dizaines, centaines de kilomètres, mais leur frontière, c'est une frontière matérielle. Tandis que les trous noirs, c'est un objet qui a du masse, mais qui n'a pas une frontière matérielle. C'est-à-dire que sa frontière, c'est ce qu'on appelle un horizon. C'est-à-dire, si vous essayez d'arriver à l'horizon et de toucher, jamais vous pouvez le faire. Et cet horizon, c'est-à-dire que le trou noir, c'est un objet qui a du masse, mais qui a une frontière immatérielle, qu'on appelle un horizon. Et la question qu'on se pose maintenant, les astrophysiciens, et sur lesquels on travaille, est-ce qu'on pourrait avoir une image, pour première fois, de la phénoménologie autour, juste très près de cet horizon, et en particulier du trou noir dans la partie centrale de notre galaxie. Et vous voyez ici, ça c'est un calcul qui a fait Jean-Pierre Luminet pour sa thèse, de comment devrait apparaître l'image du trou noir central de notre galaxie, où on a une partie sombre qui correspond à la matière, parce que le trou noir a une rotation, et par d'un côté, la lumière qui est autour du trou noir va tomber vers le trou noir, c'est-à-dire qu'elle va être sombre, ne va pas arriver à nous, et l'autre côté, la lumière va être, comme on dit en anglais, boosté vers nous, c'est-à-dire très lumineux. Et alors, pour cette expérience, on construit une collaboration qui s'appelle le Horizon Telescope, où vous aurez incorporé un télescope en Antarctique, le réseau de radiotélescopes submillimétriques ALMA au Chili, au nord du Chili, des télescopes dans l'Arizona et Californie, un télescope à Hawaï, et aussi les 30 mètres de l'IRAM au sud de l'Espagne. Et cette image, c'est une collaboration qui essaye de faire l'image en utilisant une technique qu'on appelle interférométrie intercontinentale, c'est-à-dire qu'on simule un télescope qui a la taille de la distance intercontinentale entre tous ces télescopes. Et ça, c'est cette interférométrie, et l'image qui est nécessaire pour arriver à avoir une image comme ça, on devrait avoir une résolution de 30 microarcs/secondes dans les domaines des ondes submillimétriques. Et ça, c'est une entreprise sur laquelle on travaille en ce moment. Alors, ça serait la première image de les effets qu'on appelle relativistes autour d'un trou noir qui a rotation. Alors, une des questions qu'on s'est posé depuis quelques années, c'est est-ce que ce trou noir serait la source d'antimatière qui produit l'annihilation des électrons avec les antiélectrons, c'est-à-dire les positrons, l'antimatière dans la région centrale de la galaxie. En fait, depuis les années 80 et 90, différentes expériences avec des ballons ont montré qu'il devait avoir des sources qui produisent l'antimatière dans la région centrale de la galaxie, et on croyait, on soupçonnait que cette émission était rapidement variable. Et bon, ça a été une question majeure de l'astrophysique et aussi de la physique expérimentale, de quelque façon. Et pour l'étude, pour essayer de sentir si ce trou noir supermassif était la source d'antimatière dans la région centrale de notre galaxie, est-ce que a été lancé dans l'année 90, que ça a été la même année que je suis arrivé en France depuis les États-Unis, a été lancé un satellite franco-soviétique qui s'appelait Granate, que son but était de faire des images des objets de haute énergie, mais en particulier du centre galactique pour voir si ce trou noir supermassif pourrait être la source d'annihilation de matière et antimatière dans la région centrale de la galaxie. Pendant 10 ans que c'est des opérations de ces satellites, la situation était que les trous noirs supermassifs est resté dans un état de silence sépulcral. C'est-à-dire, il n'a rien fait. Et on était déçus de ne pas pouvoir voir et confirmer que ce trou noir était la source d'antimatière. Par contre, il a été découvert que il y avait un objet que c'est un trou noir qui accrète de la matière d'une étoile compagnon, c'est-à-dire qui arrache de la matière, qui produisait des émissions de très haute énergie. Et moi, je suis arrivé en France pour travailler sur les galaxies ultralumineuses, pour travailler sur les programmes d'études extragalactiques, pour les satellites qui s'appellent Infrared Space Observatory, ISO. Et je suis arrivé et j'ai partagé le bureau avec un théoricien canadien. Et j'ai commencé à écouter, jamais j'avais travaillé dans le domaine des hautes énergies. Je me suis déjeuné sur Granate quand je suis arrivé ici. Il y avait des gens de cette expérience avec Granate qui venaient lui parler à ce théoricien en demandant de l'aide pour interpréter les observations. Et moi, je partageais les bureaux et j'écoutais. Et j'ai commencé à m'intéresser et à poser des questions. Et cet objet... Alors, j'ai proposé dans l'année 92 de faire des observations avec un réseau de radiotélescopes pour sensibiliser l'émission de radio-ondes depuis cet objet. Et l'idée de base était que s'il y a une source de photons de très haute énergie, certainement devrait avoir cette source devrait être aussi une source de particules de haute énergie qui, en interactuant avec les champs magnétiques, il est partout, devrait produire un type d'émission, une radio-onde qu'on appelle émission synchrotron. Les électrons et les positrons orbitent autour de ces champs magnétiques quand ils sont éjectés. Et notre surprise était que la contrepartie compacte de cet objet de très haute énergie était au centre de jets très collimatés qui peut arriver jusqu'à des distances des années-lumière et que sont la trace, en fait, de particules qui sont éjectées, qui interactuent avec les champs magnétiques la trace synchrotron de ces particules. Et à cet objet, si vous regardez, l'idée était que ça se rassemblait à les quasars de radiogalaxies. Et alors, j'ai proposé à ce moment que les concepts de microquasars, c'est-à-dire l'idée de que cet objet était comme un quasar avec la même phénoménologie physique, mais basé sur au provenance de toute cette phénoménologie d'un objet, d'un trou noir de masse stellaire au lieu d'être un trou noir supermassif. Et sur ce domaine, maintenant, il y a eu déjà 8 conférences internationales, et la dernière était un symposium de l'Union astronomique internationale. Alors, cette idée, cette analogie, c'est une analogie basée dans la physique, et pas simplement dans la morphologie. L'idée est que les quasars et les microquasars ont les mêmes trois ingrédients, c'est-à-dire un objet compact, des disques d'accrétion à travers lesquels la matière, quand il tombe vers le trou noir, il les fait dans une structure de disques, et des jets relativistes. Dans les cas de quasars, qui peut arriver jusqu'à des distances, comme j'ai mentionné, des millions d'années-lumière, tandis que dans les cas d'un microquasar, il arrive jusqu'à distance de quelques années-lumière. Et toute la physique qu'on a proposée dans cet article de Nature, est-ce que toute la physique pourrait être décrite par un unique système d'équations et de concepts, sauf que les échelles de distance et de temps sont proportionnelles à la masse du trou noir. Et de cette façon, on pouvait décrire toute la phénoménologie. Alors, la différence alors en ce moment, dans l'année 92, on s'est posé la question, est-ce que il y aurait dans le microquasar la même phénoménologie exactement que dans les quasars? Et un des phénomènes qu'on avait du mal à comprendre, ça a été le mouvement apparent, superluminique, des jets, des éjecta, depuis les quasars. Et il nous a pris 2 ans de vraiment trouver ce phénomène dans un microquasar. Et ça a été avec mon collègue Luis Felipe Rodriguez, qui avait été le directeur de l'Institut d'astronomie au Mexique, et il était en année sabbatique dans l'état de Nouveau-Mexique, où il y a ce réseau d'antennes de l'institut qui s'appelle National Radio Astronomy Observatory des États-Unis. Et comme j'étais à Saclay, moi j'ai écrit une proposition pour faire des observations avec ce réseau de radiotélescopes un microquasar qui a été découvert avec le satellite franco-soviétique Granate, qui s'appelait comme ça. Et j'ai envoyé la proposition. Et une nuit, j'étais là et un des collègues de l'expérience Granate m'a dit que m'a montré les données récentes de cette source. Et je savais que, quand j'ai vu ça, que ces sources allaient péter fortement. Et que ça a été l'opportunité pour voir comment étaient générés, produits ces jets, parce qu'on savait que il y a une relation, mais qu'on ne comprenait pas très bien en ce moment, dans l'année 94, entre l'état et les instabilités du disque d'accrétion qui produit le rayonnement X et gamma, Et les subjections qu'on observe dans les domaines de, avec des télescopes radio. Et alors, Luis Felipe, lui, il faisait l'installation dans 10 des antennes de récepteurs mexicains pour faire la interférométrie dans les ondes millimétriques. Que ça a été une sorte de préannonce d'Alma. Mais le reste des antennes, des 17 antennes qui restaient sans observation, sans être utilisées, étaient idle. Alors je lui appelle par téléphone et lui dis, est-ce que on peut diriger ces 17 antennes vers cette source et surveiller cette source parce que on doit être à l'affût parce qu'il va avoir un phénomène très important de haute énergie. Et bon, il a parlé avec celui, ça a été l'ami déjà, celui qui était chargé, il a donné le permis, mais il a dit, vous ne pouvez rien faire, c'est-à-dire avec ces données, vous ne pouvez pas publier, parce que pour ça, il faut voir, il faut respecter les collègues, etc., il faut avoir les propositions acceptées. Et bon, alors on a fait les observations et ici vous voyez une séquence d'images qu'on a pris une fois par semaine pendant 2 mois, à peu près un mois et demi. Et vous voyez, ça ce n'est pas une représentation artistique, ce sont des données réelles. Dans la croix, vous voyez la croix ici, ça c'est la position du trou noir. À Crétin, qui est à une distance d'à peu près 30 000 années-lumière dans le plan galactique, très loin de nous. Et on a réussi à voir une éjection majeure, qui, comme on connaît la distance, on a mesuré que le déplacement de ce nuage était à une vitesse apparente plus grande que la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que le même phénomène qui avait été observé dans les quasars, maintenant on l'a observé dans notre galaxie, dans une source qui est à la portée de la main, comparé avec les distances des quasars, et l'énergie cinétique de ce phénomène est équivalent à l'énergie, à la puissance qui serait nécessaire pour émoyer la Lune. La Lune a une vitesse de 95% la vitesse de la lumière. Si vous prenez la Lune et la éjectez à une vitesse de 95% de la lumière, c'est ça qui peut produire un trou noir de masse stellaire. C'est-à-dire que ce sont des sources d'énergie énormes. Et ça a été aussi rapporté dans Nature. Et en fait, une anecdote, est-ce que, bon, je contacte le directeur de l'observatoire pour le dire, moi je n'ai rien reçu sur ma proposition. Et je vois qu'il y avait des propositions acceptées, mais ma proposition n'est pas là. Et il n'y a pas un rapport de réjection. Il m'a dit, mais tu n'as pas envoyé une proposition. Oui, je lui ai dit, oui. Et alors, j'avais envoyé à l'époque, on utilisait, quand on était sur la date, en lieu d'utiliser l'Internet, on utilisait des fax. Alors, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai envoyé les fax au bureau du National Radio Astronomy Observatory, équivoqué. C'est-à-dire, ça a été dans un autre bureau, parce qu'ils ont différents sites. Et alors, ma proposition était perdue. Le directeur m'a dit, non, mais on n'a rien reçu. Alors, j'appelle la secrétaire de ce bureau, où j'ai envoyé, et elle m'a confirmé, oui, je me souviens bien que j'ai reçu cette proposition. Alors, heureusement, les directeurs de cet observatoire ont un petit temps de télescope de discrétion. Et lui, il a regardé ma proposition, il a regardé le résultat et il a dit, il a regardé toutes les autres propositions qui étaient envoyées pour voir qu'il n'y avait pas de conflit, que nous étions les seuls à avoir proposé ça. Et il a dit, allons-y, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces données magnifiques que vous venez d'obtenir. Alors, ça, ce sont des choses qui nous arrivent, les chercheurs, hein, ce sont des choses qu'il faut être persistant. Quelquefois, quand vous êtes convaincu d'une idée, il faut la suivre. Alors, ce type de jets, sont très puissants, on les observe maintenant. Ça, c'est un objet qui, c'est un trou noir aussi, qui produit des éjections. Vous voyez ici la taille de cette image, et tout ça est à l'intérieur d'ici, et ça, c'est la nébuleuse haute de ce trou noir accrétin, et vous voyez que, il est capable de souffler le milieu environnement à des distances de dizaines d'années-lumière. Vous voyez ici à côté. Et ça était appelé, par les radioastronomes anglais, les oreilles du prince Charles. Ça a été le nom qu'eux, ils ont donné à ces, les radioastronomes étaient de l'université de Manchester, vous savez, Manchester, ça a été une région économiquement déprimée, et eux, ils n'aimaient pas la royauté, alors même dans la publication, ils ont mis cette destination. Et ça a été des amis que j'avais quand j'avais travaillé aux États-Unis. Alors, dans ces jets, il y a en fait des noyaux atomiques, des fers même, très lourds, qui se déplacent en quart de la vitesse de la lumière, et on sait que cet objet aussi est très puissant. Et plus récemment, Stéphane Corbel, qui a fait sa thèse dans notre groupe à Saclay, en utilisant les émissions en rayonnement X, a suivi un phénomène d'éruption en sursaut dans les X qui sont produits par un trou noir stellaire accrétant. Et vous voyez, 2 ans après, ces sursauts, ils ont détecté un nuage qui s'éloigne et qui se freine au fur et à mesure qu'il trouve un obstacle. Ça a été observé 2 ans après, et 4 ans après les sursauts, de l'autre côté, ils ont observé aussi l'émission très collimatée, dans la même ligne, produite par l'interaction de particules de haute énergie avec un mur, évidemment, qu'ils ont trouvé dans le milieu interstellaire. Et quand ça arrive, c'est ce qu'on appelle un choc. Et dans les chocs par un mécanisme que s'appelle mécanisme Fermi, les électrons sont accélérés et rayonnent dans des domaines radio, X, etc. Alors, on sait maintenant que les microquasars sont des sources de très haute énergie, et en fait, j'avais proposé, le Review Science m'avait demandé un article de perspective dans l'année 2009, et j'avais proposé que les microquasars devraient être observés à très très haute énergie. Donc, les photons de très haute énergie, ce sont les plus hautes énergies, sont les tétraélectronvolts et gigaélectronvolts. Et en fait, il y a 2 ans, 2 microquasars ont été repérés par les satellites Fermi et Agile de haute énergie, qui repèrent les émissions de haute énergie. Et cette émission est produite par l'interaction entre les jets, les particules de jets et les photons qui émettent les étoiles massives autour. C'est-à-dire que l'Égée doit traverser des régions où il y a beaucoup de photons qui sont produits par l'étoile qui fournit de la masse au trou noir, et dans cette interaction est produit l'émission de très haute énergie. Et pour étudier ce type de phénomène dans le microquasar et des autres phénomènes, bien sûr, de haute énergie dans l'univers, est-ce que on travaille maintenant sur un projet qui s'appelle Cherenkov Telescope Array, qui est l'utilisation de l'atmosphère comme partie du télescope, quand les photons de très haute énergie arrivent à l'atmosphère, bien sûr, ils ne peuvent pas arriver au sol, autrement on ne serait pas là, on était tous morts. Alors ces photons produisent des cascades, dissocient les molécules de l'atmosphère et produisent des cascades qui sont détectées par une technique qui s'appelle Cherenkov. Et ce projet consistera en 130 télescopes dans l'hémisphère sud. Et bon, où est-ce qu'il va aller, s'il va aller en Argentine, le Chili ou la Namibie, ça sera décidé l'année prochaine. Et, bien sûr, j'ai mon cœur quelque part, mais ils m'ont dit, bon, tu fais un pas à côté parce que tu es trop biaisé pour proposer où doit aller ce projet. Vous savez, l'Argentine a le projet OG, qui c'est un projet de particules de très haute énergie, les particules les plus énergétiques. Et il y a une communauté très forte des astrophysiciens et physiciens de haute énergie, comparé avec la Namibie et le Chili. Le Chili a une communauté très forte dans l'astronomie traditionnelle. Et ça, c'est un domaine différent de l'astrophysique. Alors, qu'est-ce que les microquasars ont permis comprendre mieux? Bon, d'abord, ils ont permis comprendre la connexion qui existe entre les disques d'accrétion et les jets qu'on observe partout dans l'univers. Et ça, c'est grâce au fait que dans des échelles de temps, qui sont des échelles de temps à échelle humaine, c'est-à-dire dans une heure, on peut repérer la connexion entre les instabilités qui se produit dans les disques d'accrétion et la production des jets relativistes. Et ça, les premières observations, on a fait simultanées depuis l'espace avec un satellite, depuis Hawaï dans le domaine infrarouge, et depuis le VLA en radio, et on a pu constater la relation entre les instabilités du disque et la production des jets. Ça serait trop loin d'aller en détail, et ça demanderait trop de temps, mais ça c'est une des choses qu'on a compris, et en fait la même connexion a été observée dans des quasars. Après on a fait ces observations, et mais dans des échelles de temps de plusieurs années. C'est-à-dire que dans un quasar, pour trouver des masses de 1 milliard de masses solaires, c'est-à-dire 1 000 millions de masses solaires, pour observer les mêmes phénoménologies physiques, il faudrait observer pour des centaines, peut-être plus de 1 000 ans, et ça, ce n'est pas possible pour nous. On ne vit pas autant. Mais dans les microquasars, dans une heure, on peut faire ça. Et ça, c'est une conséquence de cette analogie qu'on a proposée, où les échelles de la phénoménologie sont en fonction directe de les échelles de temps et de distance de la masse de l'objet compact. L'autre grande ouverture d'horizon, ça a été la connexion entre la rotation des trous noirs et la puissance des jets. On trouve qu'il y a une relation entre la vitesse de rotation du trou noir et la puissance qui ont des jets. Et en fait, avec les trous noirs, dans les trous noirs, par différentes méthodes, que je ne peux pas décrire en détail, on peut mesurer combien de rapidement les trous noirs tournent. Il y a maintenant, ça, c'est tout un domaine de recherche qui s'est ouvert à partir de la découverte des microquasars. Ça, c'est seulement deux domaines qui nous aident à comprendre la physique dans les objets les plus lumineux, les lumineux qui sont les quasars. Mais on a ces microquasars qui sont des laboratoires idéaux pour repérer toutes ces phénoménologies. Alors, les trous noirs de masse stellaire. Comme avait prédit Mitchell, sont repérés en général dans des systèmes binaires où vous avez une étoile massive et un trou noir qui accrète la matière. C'est-à-dire qu'il y a une danse entre une étoile vivante et une étoile morte. Et dans cette danse, est-ce que se produit l'émission X qui est repérée depuis l'espace et grâce à le développement de ces technologies et la découverte, entre autres, du premier trou noir accrétant un X dans notre galaxie, est-ce que Giacconi a eu le prix Nobel dans l'année 2002, il y a un peu plus de 10 ans. Alors, les trous noirs, les objets compacts, tous les trous noirs ont des masses, bon, astrophysiques qu'on connaît, des masses plus grandes que 3 masses solaires, et on estime, bien qu'on connaisse seulement quelques dizaines de trous noirs dans notre galaxie, on estime qu'il devrait avoir à peu près 300 millions de trous noirs stellaires qui se baladent dans notre galaxie. Mais on connaît seulement quelques dizaines. Et la raison est que pour repérer un trou noir, il doit avoir, comme disait Mitchell, une étoile compagnon. Et la plupart de ces trous noirs sont des trous noirs solitaires qui se baladent dans notre galaxie, dans l'anneau de notre galaxie. Et si ces trous noirs de masse stellaire pourraient constituer à peu près 4% de la masse baryonique, et ces masses est à peu près 1000 fois la masse du trou noir au centre de notre galaxie, du trou noir supermassif. Alors, une des choses que j'ai commencé à m'intéresser, ça a été comment les trous noirs sont formés. Ces trous noirs dans des systèmes binaires. Bon, les trous noirs stellaires sont formés à partir des étoiles massives. Quand les étoiles massives épuisent, ont utilisé tout leur combustible nucléaire au centre qui contrebalance le poids des atmosphères extérieures, l'étoile s'effondre pour former un trou noir. Et la question était si tous ces trous noirs stellaires se forment à travers des explosions des supernovas, c'est-à-dire si l'étoile progéniteur des trous noirs est vraiment 10 minutes. Ok. Merci. Si toutes les étoiles se forment, tous les trous noirs se forment de cette façon, à travers une phase d'explosion très énergétique, et pour étudier ce phénomène de point de vue observationnel, expérimental, est-ce que j'ai eu l'idée d'utiliser la cinématique des micro-quasars pour voir comment se sont formés les trous noirs qui entourent dans notre galaxie. Et on avait 5 trous noirs avec des très bonnes données pour faire cette démarche. Et ça, c'est une ligne de recherche que j'ai développée avec Ira Juan Rodriguez. Ça, ce n'est pas le Rodriguez mexicain, ça c'est le Rodriguez brésilien qui est appelé, bon, c'est un gaucho, c'est quelqu'un du sud du Brésil qui il est venu travailler avec moi comme postdoc pendant une période de 5 ans à peu près, et lui il était très doué pour faire des calculs avec les ordinateurs, plus jeune que moi, et on a fait une ligne de recherche. Vous voyez que c'est un gaucho parce que il voit des matés. Ils sont les Brésiliens les plus pareils aux Uruguayens et Argentins. Et c'est pour ça que les Brésiliens du Nord, ils les appellent gauchos, parce que ils voulaient être partis de l'Argentine et l'Uruguay. Mais le Brésil, bon, les Anglais ont décidé que ça devrait appartenir, Rio Grande do Sul devait appartenir au Brésil et pas à l'Argentine. Alors, j'ai su que, après, quand il partait, que de façon indirecte, qu'avant de venir travailler avec moi, bon, il est venu quand il était un peu âgé pour les critères français de jeunes chercheurs. Et j'ai su que lui, il avait pendant quelques années joué la guitare électrique et qu'il avait formé l'orchestre de rock and roll la plus populaire dans la partie sud du Brésil. Et quand j'ai su ça, je lui demandais, mais pourquoi tu vas quitter la musique? Et jamais il m'a donné une raison, il évitait de me donner une raison. Et bon, il voulait être astronome, je ne sais pas. Il a préféré ça, mais il était un très bon musicien. Et jamais il a amené ici en France aucune guitare. Je lui demandais, mais pourquoi? Il ne répondait pas. On parlait beaucoup, mais pas sur cette décision qu'il a prise. Bon. Alors, avec lui, on a trouvé, dans ces 5 trous noirs, que 2 de ces 5 trous noirs sont des trous noirs fugitifs. C'est-à-dire des trous noirs qui ont été éjectés de leur site de formation, leur berceau d'étoiles massives. Et ici, vous voyez les mouvements que Irapuan a fait, la simulation qu'il a fait. Vous voyez ici le soleil qui, vous allez voir, qui tourne autour du centre de la galaxie avec une période orbitale de à peu près 230 millions d'années, et le mouvement du trou noir dans la galaxie. Et l'idée est que ce trou noir a été catapulté depuis le plan de la galaxie vers l'anneau, par la supernova natale, quand le trou noir s'est formé, il y a eu une explosion, et bon, il a gardé une étoile, compagnon, et aussi avec le télescope spatial, on a obtenu un résultat pareil pour le deuxième trou noir avec une masse entre 5 et 7 masses solaires. Par contre, les trous noirs plus massifs pour les autres 3 trous noirs qui ont des masses plus grandes que 10 masses solaires, on trouve que n'ont pas été nés dans une phase d'explosion très énergétique. Et ce que j'appelle implosion, c'est-à-dire que peut-être il y a eu une explosion, mais la matière n'est pas arrivée à sortir et il est retombé vers le trou noir, ce que j'appelle implosion, c'est-à-dire il y a eu une explosion, mais pas repérable. Autrement, c'est tout noir. Hein. Si on fixe ça, ça, c'est l'image. Vous voyez ici comment se déplace dans le plan du ciel les berceaux d'étoiles massives de ces trous noirs qui s'appellent Cygnus X1, et ils se déplacent de la même façon. S'il y aurait eu une explosion de supernova, ils devraient avoir été éjectés de ces berceaux d'étoiles massives. Et on les trouve toujours, il est ancré dans son cycle de naissance. Alors, il y a deux autres trous noirs, et on sait que ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est un bon mot français, écroulement direct de l'étoile massive, quand il s'effondre, il va directement dans le trou noir. Et c'est comme si vous auriez une étoile très massive, et quand il se transforme en trou noir, simplement il disparaît. Il n'y a pas d'explosion. Et ça, c'est très important pour le travail qu'on fait maintenant. C'est-à-dire parce que ça nous indique que ces trous noirs devraient avoir été très importants dans des phases plus primordiales d'évolution de l'univers que la nôtre. Et, alors, il y a ces trous noirs dans les galaxies, les microquasars dans les galaxies extérieures. Vous voyez ici les antennes. Et je vais vous montrer ici, à l'intérieur de cette contour vert, l'image X, avec un satellite qui s'appelle Chandra. Et vous voyez qu'il y a une grande quantité de sources compactes qui émettent dans les X. Et on pense que ce sont des trous noirs stellaires qui accrètent de la matière d'une étoile compagnon. Et la question qu'on se pose, c'est parce que jusqu'au présent, j'ai parlé des trous noirs de masse stellaire, c'est-à-dire jusqu'à 80-100 masses solaires, sont les trous noirs stellaires, et les trous noirs supermassifs, qui ont des masses de millions, jusqu'à milliards de masses solaires. Mais est-ce qu'il y a des trous noirs avec des masses intermédiaires, c'est-à-dire avec des masses de 1000, 10 000 masses solaires? Et ça, c'est une question sur laquelle beaucoup de gens travaillent et essayent de trouver des évidences sur l'existence de ces objets. Et peut-être, à mon avis, ça c'est mon opinion, mais le meilleur candidat, c'est un trou noir qui s'appelle HSLX1, trouvé dans une galaxie qui s'appelle ESO, etc., qui a une distance de 95 mégaparsecs. Et vous voyez ici l'image de la galaxie, et l'émission X provient de ces points-là. Et l'idée qui commence à émerger, est-ce que ces trous noirs pourraient avoir une masse de l'ordre de 1000 masses solaires, et ça serait le remanent d'une galaxie naine qui a été déchirée par interaction avec cette galaxie massive, et les trous noirs se séparaient du corps de la galaxie. Et de quelque façon, comme a proposé Lasota, qui travaille ici, cet objet, ça serait, ça c'est le trou noir de 1000 masses solaires à peu près, on ne sait pas encore, et ça c'est l'étoile, ça c'est le trou noir de, bon, l'étoile, quand il passe près du trou noir, les trous noirs arrachent de la matière et produit des sursauts une fois par an à peu près. C'est-à-dire qu'il y a une périodicité. Il doit avoir l'objet, l'étoile orbite autour du trou noir. Il fait une révolution complète une fois par an et chaque fois qu'il passe près des trous noirs, les trous noirs arrachent de la matière et produit des sources dans l'émission X. Alors, est-ce que ça c'est l'évidence d'un trou noir de masse interstellaire? Moi, je crois beaucoup pour ça dans les équations de Newton. C'est-à-dire, pour mesurer, pour dire qu'il a cette masse intermédiaire, il faut étudier les systèmes binaires et pour pouvoir dériver à partir de la dynamique la masse de l'objet compact. Et ça, c'est une chose que sur laquelle on travaille dans ce moment. Alors, la troisième manifestation astrophysique des trous noirs, on a vu un trou noir supermassif, trou noir de masse stellaire, c'est ce qu'on appelle les sursauts gamma, de longue duration, qui sont les explosions les plus énergétiques qu'on observe dans l'univers. Et en fait, vous voyez ici, ça c'est une image du ciel complet dans le rayonnement gamma. Et ça apparaît, ça devient la source dans quelques secondes. Ce sont des explosions qui durent à peu près entre 1 et 10 secondes. Et on pense que ce phénomène est dû à la formation d'un trou noir. Quand l'étoile massive s'effondre, en général, se produit une explosion de supernova. Et ce type de phénomène, on l'a opéré, on a déjà repéré la mort d'une étoile massive jusqu'à des décalages d'œuvre rouge de plus de 8. C'est-à-dire quand l'univers avait seulement un âge de quelques centaines de millions d'années. L'univers a maintenant à peu près 14 milliards d'années. Et ce type d'objet peut être utilisé comme des phares pour étudier l'évolution de l'univers, en particulier, par exemple, l'évolution chimique de l'univers. C'est un sujet que Petit Jean, qui travaille ici, est un des plus connus dans le monde, qui travaille dans ce domaine. Mais aussi, il nous permet de penser quand est-ce que les étoiles massives donnent lieu à ce type de phénoménologie se sont formées pour première fois. Et, c'est-à-dire qu'on peut pénétrer l'univers vers des époques très primordiales en étudiant ce type de phénoménologie qui s'appelle gamma ray burst et qui implique beaucoup de groupes de recherche. Alors, l'analogie, on l'a répandu avec Rodriguez, et maintenant aussi à les phénomènes des sursauts gamma, c'est-à-dire qu'il y a en ce moment trois manifestations astrophysiques principales des trous noirs. Les quasars, les radiogalaxies, les trous noirs de supermassifs, les trous noirs de masse stellaire et les trous noirs en formation. Et les trois manifestations ont comme constituant les mêmes trois éléments, c'est-à-dire l'objet compact, l'accrétion des matières à travers un disque et la production des jets relativistes. Et on pense que il devrait y avoir un unique mécanisme hydrodynamique pour rendre compte de la production de CG dans tout l'univers et dans tout ce type d'objets. Et Et avec Rodriguez, ça a été publié dans l'année 2002. Et je lui dis à Luis Felipe, ça sera mieux de ne pas faire cette proposition dans un journal avec comité de lecture, c'est-à-dire avec référis, parce que ça ne va pas passer. On va avoir tellement de problèmes. Mais on avait l'opportunité de faire connaître cette idée, simplement parce que la revue la plus populaire de vulgarisation astronomique aux États-Unis, qui s'appelle Sky and Telescope, nous avait proposé d'écrire un article de revue sur ce type de science. Et je lui dis à Luis Felipe, c'est mieux de le mettre dedans, parce que c'est notre opportunité. Autrement, on va être avec beaucoup de difficultés, avec des référés qui vont dire que ça c'est pour spéculation, etc. Et bon, maintenant, cette figure est reproduite dans des articles de Nature et Science. Mais ils ont passé déjà 10 ans. Et alors, la question qu'on s'est posée, et ça c'est le domaine de recherche très actuel sur lequel je travaille, c'est la question si les trous noirs ont des rôles régulateurs à niveau galactique et cosmique. C'est-à-dire si la rétroaction des trous noirs qui accrètent la matière et qui rétroactent ont un impact sur l'évolution cosmique et la formation des galaxies. Et en fait, ça, on sait que c'est le cas maintenant à travers des observations. Ce sont des observations de, par exemple ici, c'est un exemple. On sait que dans les amas des galaxies très massives, il y a les galaxies n'accrètent plus de masse de façon considérable, parce que c'est comme que le trou noir, quand il est arrivé à des masses de plus de 1000 millions de masses solaires, il ne veut plus de masse et éjecte des matières qui empêchent la matière qui veut tomber. Et ce sont des images qui montrent ce phénomène. C'est-à-dire que les trous noirs supermassifs imposent une limite supérieure pour la masse des galaxies les plus massives. La question est pourquoi il n'y a pas de galaxies de 10 puissance 15 masse solaire, 10 puissance 16. Il y a assez de matière qui essaye d'aller et on a vu que les jets empêchent la matière de tomber. Et c'est-à-dire que les trous noirs supermassifs sur lesquels on ne sait pas encore comment se forment et imposent une limite sur la masse des galaxies les plus massives. Et d'autre part, et ça c'est le travail que j'ai fait en ce moment, on a fait déjà une publication, c'est que les trous noirs de masse stellaire devraient avoir joué un rôle important pendant la phase qu'on appelle de réionisation de l'univers, que c'est une des frontières principales qu'on a dans la cosmologie en ce moment. Et la réionisation, c'est le phénomène physique d'arracher les électrons des protons, des noyaux des atomes. On sait que l'univers, une fois qu'il a eu un âge de à peu près 400 000 années, la matière et la radiation se sont détachées, découplées, et les premiers atomes d'hydrogène se sont formés parce que l'univers s'est refroidi relativement rapide. Et il y a eu une époque de réionisation, et la question c'est qu'est-ce que a initié le processus de réionisation de l'univers, du milieu intergalactique. Bien sûr, sont les premières étoiles, et les premières galaxies, les premières générations. Mais les gens pensent que c'est plutôt l'émission des étoiles, ultraviolet des étoiles, et les modèles qu'on a, c'est les modèles dominants, parce que l'univers a commencé à se réioniser à travers ces sortes de régions qui se sont juxtaposées pour devenir de nouveau transparents. C'est-à-dire on peut observer des galaxies jusqu'à des distances quand l'univers avait seulement quelques centaines de millions d'années. Mais ça, c'est grâce au fait que le milieu intergalactique à travers lequel vient la lumière vers nous, est ionisé. Autrement, ça ne serait pas possible. Ça, c'est l'idée qu'on a proposée dans cette publication avec le groupe libéré par Avi Loeb de Harvard. Et est-ce que les trous noirs stellaires seraient formés dans très grande quantité en produisant des rayonnements X qui auraient chauffé le milieu intergalactique et empêché la formation des galaxies naines plus petites que 10 puissance 8 masses solaires, qui précisément sont prédits dans des nombres, des quantités énormes par le modèle standard d'évolution de l'univers, que c'est le modèle de matière noire froide, mais qu'on ne trouve pas. Et notre proposition est que jamais pouvait savoir former ces galaxies, et qu'il y aurait de grumeaux de matière noire jusqu'à des masses de 10 puissance 8 masses solaires qui se baladent dans l'univers, mais qu'on n'a pas de matière baryonique associée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas formé des galaxies. Ces trous noirs, la fusion de ces trous noirs qui seraient formés dans cette époque primordiale, seraient les sources les plus probables, d'après pas mal de publications, des ondes de gravitation. La conclusion est que les trous noirs supermassifs constreignent la masse maximale des galaxies massives et les trous noirs stellaires contraignent la masse minimale des galaxies naines. C'est-à-dire que la rétroaction des trous noirs est très importante pour comprendre la structure des galaxies et comprendre cette époque primordiale des évolutions cosmiques. Merci.
Bravo. Merci pour ce brillant exposé. D'ailleurs, je mesure à quel point il y a eu du progrès fait depuis la dernière conférence que tu nous as donnée il y a une dizaine d'années, à peu près. Énormément de choses qui ont été faites depuis. Et donc, j'en déduis une chose, c'est que, premièrement, il y a eu ces progrès. Et deuxièmement, ça me paraît plus facile de percer le secret des trous noirs que celui d'un guitariste, même s'il est très proche. Si je ne me trompe pas.
Oui, bon, mais percer la profondeur spirituelle des gens,
c'est très difficile. Toi qui es philosophe, tu pourrais aussi nous en parler longuement.
Je suis d'accord. Oui.
Donc je propose maintenant de donner la parole au public. Vous avez sûrement des questions.
Vous avez dit qu'avec le VLBA, on pourrait arriver dans le futur à peut-être photographier l'horizon de notre trou noir. C'est vraiment envisageable? Et dans quel espace de temps, à peu près?
Oui, c'est envisageable. En fait, il y a des groupes à niveau mondial partout qui travaillent sur ça. Et les problèmes il peut y avoir des problèmes avec le trou noir au centre de notre galaxie parce que c'est un peu confus. Le problème, il y a beaucoup de lumière qui est émise, Mais peut-être les trous noirs supermassifs dans la galaxie Messier 87, dans la constellation de Virgo, de la Vierge, c'est un candidat peut-être plus possible pour avoir l'image. Pour des raisons que la masse de ces trous noirs, c'est des milliards de masses solaires. Et alors, on a une meilleure résolution angulaire en termes de l'horizon, la dimension de l'horizon de trous noirs, dans le cas de la Vierge. Et on pense que ça, c'est une technologie qui se développe. On pense que dans les prochaines, je dirais, 3 ou 4 ans, on sera prêt à le faire. Et c'est comme les instruments sont là, ça ne coûte pas autant d'argent comme pourrait coûter de faire ce type d'expérience dans les X à niveau spatial. Il faut lancer
À quelle longueur d'onde ça serait, si c'est
quelques centimètres? Ça serait sous-millimétrique.
Sous-millimétrique, d'accord.
Sous-millimétrique, parce que c'est, il faut le faire dans le sous-millimétrique pour le
800 microns, 600 microns.
Pardon?
600 microns.
Oui, à peu près.
D'autres questions? Non? De quoi est fait le trou noir? Une question qu'on me pose souvent. De quoi est fait, quelle est la substance même du trou noir? C'est une question que j'ai souvent entendue.
Ça, c'est une question que je crois que Hawking peut répondre plutôt que moi-même. On pense que Hawking, tous ses modèles pour expliquer les types de radiation, l'idée était que traditionnelle, est-ce que rien s'échappe du trou noir? Et Hawking, en utilisant une idée originée par Bekenstein, a fait les calculs ce qu'il propose, c'est qu'il n'y a pas des atomes, ce sont des particules, il faut faire la mécanique quantique à l'intérieur, et il pourrait avoir un type de radiation qui est très faible, il n'y a pas d'espoir pour le moment de la détecter, qui s'appelle la radiation de Hawking. Il pourrait avoir de l'énergie qui sort.
L'évaporation.
Une évaporation de trous noirs. Et en fait, c'est une idée qu'on a construite très intensément du point de vue observationnel. On pensait que ces sursauts gamma qu'on observe et que maintenant on sait que sont dus à la formation des trous noirs. On pensait que ça a été des trous noirs, mini-trous noirs, qui auraient évaporé de façon soudaine, et comme explosion, et sont des trous noirs qui auraient de taille l'horizon d'un ballon de foot. Et ça, ce sont des idées que Hawking a proposées, mais jamais on a confirmé ça.
Effectivement, ton titre « Trou noir astrophysique » suggère qu'il y a des trous noirs qui ne sont pas astrophysiques. Il y a eu d'ailleurs une frayeur il n'y a pas très longtemps, parce qu'on s'attendait à avoir un trou noir dans l'accélérateur de Genève.
Oui.
C'est ça.
Oui. Il y a eu, avec les trous noirs de l'accélérateur de Genève, comme vous le savez, il y avait des gens qui ont déposé des plantes judiciaire, parce qu'ils ont dit, si vous produisez un trou noir petit, ce trou noir commence à avaler de la matière, il avale d'abord le NHC, après Genève, après toute l'Europe, et après toute la Terre. Et il y avait des positions à niveau judiciaire,
Il y a même une vidéo là-dessus qui a été faite, une simulation. Oui.
Je voudrais savoir la vitesse de rotation du trou noir, ces différentes vitesses, mon cher Zegrassias. La vitesse de rotation du trou noir. Oui. S'il y a plusieurs vitesses de rotation, ou quelle est la vitesse? Gracias.
En fait, il y a différentes vitesses de rotation. Il y a des trous noirs qui tournent, qui font des rotations à ce qu'on appelle des vitesses maximales. Et on pense que ces trous noirs sont les sources pour leur masse les plus puissantes de ces éjections. Des éjections les plus puissantes. Et l'idée est que la puissance du jet est provient de l'extraction de l'énergie de rotation du trou noir. Ça, c'est le modèle prédominant en ce moment. Et on sait que on mesure différentes vitesses de rotation, mais en général, on pourrait dire que tous les trous noirs sont formés stellaires. Au moins, sont formés avec des vitesses de rotation très, très grandes. C'est pour ça que on observe ces sursauts gamma, au moment de la naissance du trou noir, parce que la vitesse de rotation est énorme, et les jets sont obtiennent leur puissance de l'extraction de cette énergie. C'est le modèle prédominant en ce moment.
Je voulais savoir par rapport aux trous noirs, est-ce qu'ils sont comptabilisés en tant que matière noire? Parce que au niveau de la galaxie, on disait que tourner, on a découvert la matière noire comme ça, quoi, en fait. Comme vous dites que les trous noirs supermassifs contraignent la masse maximale des galaxies massives, est-ce que c'est à cause de ça, en fait? Est-ce que ça fait partie de la matière noire, en fait, celui qui est au centre? Est-ce qu'on le compte comme de la matière baryonique ou est-ce qu'on le compte comme de la matière noire qui est inconnue?
Oui. Bon, il y a deux questions impliquées dans votre question. La première, est-ce que la masse des trous noirs pourrait rendre compte de la matière noire? Et la réponse est non. Il n'y a pas suffisant de trous noirs pour la repérer. Et même théoriquement, ils ne sont pas prévus pour rendre compte. La deuxième question, c'est est-ce qu'il pourrait avoir des trous noirs composés ou formés à partir de la matière noire et pas à partir de la matière baryonique? Et la réponse est que non, je ne sais pas. Parce que j'ai posé cette question aux théoriciens. Et j'ai eu des réponses et des explications confrontées. Quelqu'un, il y a quelques-uns très respectables qui m'ont dit non, ce n'est pas possible, et il y a des autres qui m'ont dit oui, c'est possible. Alors, je ne sais pas.
Une dernière question.
Bonsoir. Je voulais savoir pourquoi il y a, j'imagine, le trou noir sphérique. Et pourquoi les jets? Il y a deux jets, en fait, qui partent dans deux directions opposées.
Oui. Ça, c'est dû à les structures en général. On sait que tous les modèles, maintenant, les générations et productions de jets sont des modèles magnéto-hydrodynamiques. C'est-à-dire que le trou noir, il tourne et les champs magnétiques se roulent. Et se forme comme un ressort à un certain moment où la matière part dans une direction et dans l'autre, parce que le ressort est formé dans le pôle, la région des pôles du trou noir. Alors ça, pour expliquer plus en détail de ça, on devrait rester à peu près un mois.
Oui, mais il y a une analogie avec la formation des étoiles. Lorsqu'un gaz se contracte en tournant, faut évacuer l'énergie et ça se fait par les poules.
Oui. En fait, ici, il y a différents modèles sur la formation de ces jets. Et en fait, le modèle prédominant en ce moment. Vous avez ici l'horizon des événements, du plus loin, et on a l'ergosphère. Et en fait, les matières roulent et il part dans les deux côtés, les deux pôles, les jets partent dans une direction opposée et très collimante. Alors, il y a beaucoup d'équations pour arriver à expliquer ça. Ça, c'est simplement une image de base pour envisager qu'est-ce que le théoricien a fait pour expliquer ce phénomène. Ça, c'est un modèle de Blanc-Franc-Franc-Simon.
Bien, ben, merci beaucoup, Félix. C'est donc sur cette conférence que nous allons clore le programme des conférences publiques de 2012-2013.